Gas Fontabule. Et si je t'agace, si je suis trop nul, je deviendrai tout pâle, tout muet. Fais-moi une place au fond de ton cœur pour que je t'embrasse lorsque tu pleures.
Bon matin, mes chers Grüezi Oreleppl et Rundfunkzuhörer von der Walle 102.9. Un peu d'alsacien pour vous souhaiter le meilleur de cette fin de matinée. Heureux de vous retrouver dans le dedans de votre poste de radio. Oui, ça se dit, moi j'aime dire ça. Ouvrez grand vos écoutilles. J'ai fait une place à une belle personne, tout de blanc vêtu, une toque rivée sur la tête. Quand Eric joue du piano debout, ses casseroles, ses poils étoilés dansent sur la plaque de cuisson au rythme des ordres et des commandes de la salle. Un exemple, par exemple, deux cuisses de grenouilles poilées au cerfeuil avec des Schniederspätzle. On dit comme ça, Eric ?
Schniederspätzle.
Ah, Schniederspätzle, d'accord, je me suis un peu trop passionné, c'est pas très grave. Et la brigade répond en chœur avec respect : oui, chef, oui, chef. Que demeuriez Eric Westermann de la Bure Hiesel, une des plus belles tables étoilées de Strasbourg. C'est vrai, moi je peux dire ça et c'est vraiment vrai, je le sens et je le ressens. Parle-moi Eric un petit peu, je suis très heureux de partager ce moment avec toi. Tu vois, le rouge est allumé, wie geht's, comment ça gazouille?
Ça va super.
T'es content d'être là?
Bah écoute, merci beaucoup de m'inviter André.
Bah c'est normal, ça me fait plaisir. T'as déjà été chez nous un jour à Radio Judaïka?
Oh, ça fait quelques temps, oui.
La nuit des temps, t'étais pas encore étoilé à ce moment-là.
Ouais, j'avais encore des cheveux, je crois.
Eric, alors, je vais quand même te dire un truc. T'as grandi dans un endroit merveilleux, à l'Orangerie. Tu avais 27 hectares de terrain de jeu pour toi, tout seul, avec une cascade, un zoo, des arbres. Enfin, comment c'était cette enfance dans ce parc de l'Orangerie?
Bah, comment c'était un peu différent d'aujourd'hui, puisque à l'époque, on n'avait même pas le droit de rouler à vélo dans le parc.
C'est pas vrai.
Toi, tu serais malheureux, toi.
Ah bah oui.
Ah ouais, parce que, et donc je le faisais en douce. J'avais mon petit vélo et je guettais parce qu'il y avait un espèce de cantonnier qui sillonnait le parc. Et quand je voyais le képi au loin, changeais de cap.
Tu te changeais, ouais.
Alors que, vélo dans le parc, pas possible. Mettre un pied sur une pelouse, on n'y pensait même pas.
Mais aujourd'hui, c'est totalement l'inverse. Tout le monde fait du pique-nique dans le jardin de l'Orangerie.
Voilà, ben, les temps évoluent.
Ah, ça, les champs changent, ouais. Alors, tu parles d'un petit vélo. Tu avais encore des petits trous au vélo?
Ah, non, je crois que je les avais quittés à ce moment-là, déjà.
Tu les avais quittés. Ouais. Alors, une enfance heureuse, j'imagine, dans cette belle maison alsacienne, le parc à tes côtés.
Bah, génial. Que demander de plus, si ce n'est qu'on veut toujours ce qu'on n'a pas? Et tous les copains m'enviaient d'habiter dans ce parc. Et moi, je rêvais que d'une chose, c'est d'être dans un appartement au centre-ville.
C'est pas vrai.
Non, tu vois.
Ah ouais. On n'est jamais content. L'homme est un éternel insatisfait. Hein,
c'est... Ouais, parfaitement. Mais c'est vrai que ce parc, je le connaissais de tous les recoins possibles. Et il y en a quelques-uns. Mais je dois t'avouer que ça fait un moment que j'y ai pas fait un tour.
C'est pas vrai, t'as plus le temps en fait.
Mais je me le prends pas, donc merci de me le rappeler. Je pense que dans les prochains temps, j'irai essayer de redécouvrir les petits endroits qui pour moi étaient des cachettes de gamins, voir si elles existent encore.
Et puis il y avait ce petit manège avec les petites voiturettes.
Ah, toujours là, et toujours avec les mêmes voitures.
Ah ouais, toujours avec les mêmes voitures. D'ailleurs, ils les ont un peu repeintes, mais mes petits-enfants, ils y vont régulièrement, quoi. Ils adorent. Mon fils y était déjà. Je vais pas dire que moi j'y étais déjà quand j'étais toute jeune, mais c'est vrai que c'est magnifique, ces petites voiturettes.
Nombreux sont les clients qui, en terrasse, regardent les petites voitures tourner avec leurs petits-enfants. Ils donnent un petit ticket pour aller faire un tour et en leur disant, tu sais, moi, j'ai déjà été dessus.
Alors, on peut dire, tu habitais dans cette belle maison alsacienne d'Espurisle. On dit une maison paysanne, en français, c'est une maison paysanne à Colombage.
La maisonnette des paysans, hein, littéralement, je crois. Ouais, mais ça, tu me corrigeras parce que le pro de l'alsacien, c'est toi. Cette maison alsacienne qui a été bâtie maisonnette des paysans, qui n'a jamais été une ferme, puisque c'était une maison implantée en plein centre-ville de Molsheim.
Ah oui.
Et qui a été démontée
pièce par pièce, comme...
Oui, alors là, il y a un peu de légende. Hein. Et j'ai appris récemment, d'ailleurs, il faudrait que je te donne les coordonnées de ce monsieur.
Mm-hmm.
Un monsieur qui est client et qui est féru d'histoire de la ville de Molsheim et qui m'a dit qu'en fait, non, la maison a été tout simplement achetée avec la maison d'à côté. Tout a été démonter, démolir, mais pour
des poutres,
garder les poutres principales,
ouais,
les
ça.
Pierres taillées, ont été mis de côté. L'acquéreur se dit, tiens, j'en ferai peut-être un jour quelque chose. Et effectivement, ça a été repris pour une exposition, pour les plus grosses pièces.
Ouais.
Et ensuite, cette maison était remontée dans le parc pour les besoins d'une exposition industrielle en 1895. Ouais. Donc, sous l'Alsace était allemande à l'époque.
Allemande à ce moment-là. Et la maison, je crois qu'elle date de 1607.
À Molsheim.
À Molsheim, ouais. Mais alors, dis-moi, quand tu habitais là-dedans, c'était comment tu... Les sols craquaient un peu, t'avais des fantômes qui se baladaient partout la nuit. T'avais pas peur, non, dans cette grande maison? Parce que vous habitiez au-dessus, tout en haut. Hein.
Parfaitement, ouais, ouais. Bon, c'est sûr que les maisons en bois, surtout quand c'est juste un plancher, bah, ça craque, hein, ça craque, fait du bruit, au changement de saison encore plus.
Ouais.
On est dans un parc, donc les petites bêtes se baladent aussi dans le grenier. Quand on entend, on est dans son lit de gamin le soir et qu'on entend gratter... Oh, on peut tout imaginer.
Ouais, c'est vrai. Alors, tu sais, quand on parlait à l'instant des arbres, parce que cette parc, il a plus de 3000 arbres, des arbres remarquables, comme le séquoia géant, l'arbre aux 40 écus. Tu connais, tu les connais un peu, ces arbres, dans ce parc?
Je pense que tu peux m'en apprendre davantage.
Non, mais c'est vrai que les arbres sont magnifiques, ils sont vieux, ils ont 200, 300
ans. Et quand tu regardes les photos d'il y a de ça une centaine d'années, tu te dis « waouh ».
Ouais, ça
grandit. Ce petit arbre, ça aujourd'hui, c'est un géant.
Bah, surtout les platanes.
Ouais,
les platanes, ils ont plus de 300 ans, tu te rends compte, comme ils sont beaux. Là. Avant d'arriver chez toi au restaurant, là,
impressionnant.
Quand tu passes ce tunnel d'arbres, là, c'est vrai que c'est magnifique. Et alors, il y a aussi un être pourpre pleureur qui pleure souvent, qui est magnifique, qui retombe comme ça. Mais je te le montrerai un jour, tous ces beaux arbres. Moi, j'adore cet endroit. Alors, c'est aussi un lieu de promenade. Hein. Les Strasbourgeois, c'est le parc. Les gens viennent se promener, se détendre.
Se promener, y faire du sport, se retrouver.
Ça vit, quoi. Hein.
Ouais.
Et la nuit, il y a des lumières et tout.
Eh ben non, la nuit, il n'y a plus de lumière.
Ah bon, ils ont fait des économies?
Ah oui, à partir de 23h, c'est blackout.
Ah, c'est vrai, parce qu'ils ont mis, il y a quelque temps, ils avaient mis des lumières. Et maintenant, c'est éteindu.
À partir de 23h, il y a juste les voies principales qui sont maintenues, mais ça fait déjà, ça fait déjà peut-être 10 ans.
Ah ouais, c'est vrai que je me promène.
Et c'est vrai qu'au début, je me suis dit, ça va attirer une
autre
clientèle pas forcément souhaitée.
Ouais, c'est vrai.
Et il n'en a rien été,
bon.
Puisque quand on veut faire du commerce, quel qu'il soit, bah, il vaut mieux être sous la lumière que dans l'ombre.
Ouais.
Et le calme, du coup, le parc retrouve un calme la nuit qui n'était pas forcément le cas avant, quand la lumière était allumée toute la nuit. Voilà.
Alors, je vais t'emmener en promenade un petit peu. On va écouter une balade musicale qui va te plaire. Écoute, une voix cristalline. Mets-nous la petite musiquette, s'il te plaît. Voix. Hein.
À la cala, c'est impressionnant.
Tu adores. Tu écoutes un peu de musique aussi quand tu fais la cuisine?
Non, parce que il faut pour moi être à son affaire. Et puis je suis entouré d'une bonne quinzaine de cuisiniers.
De brigadiers.
Il y a énormément d'informations qui circulent en permanence en cuisine.
Oui, oui.
Donc on en reparlera un peu tout à l'heure. Les yeux, les oreilles, toutes les écoutilles ouvertes.
Alles offen, ouais. Alors dis-moi, quand tu étais petit garçon, quand tu descendais de ta chambre, tu allais schlupf comme ça dans la cuisine chez ton papa? Et tu travaillais un peu avec lui, te faisais décortiquer par exemple les cuisses de grenouille?
Ouais, symboliquement. Hein. C'est vrai que j'ai jamais été, comme on peut le voir dans beaucoup d'entreprises, mis à contribution pour fournir un quelconque travail. Non, c'était plus de l'amusement qu'autre chose. Mais c'est vrai que les cuisses de grenouille, tout petit, j'en ai désossé, ça c'est
sûr.
On
a désossé, donc ton papa te montrait...
Avec un rendement certainement...
moindre.
Bien moindre qu'actuellement.
Oui, mais tu apprenais les premiers gestes peut-être aussi.
Oui, puis tu sais, le simple fait d'être au contact, de regarder les autres travailler, t'apprends beaucoup.
Ouais, ouais. Et alors, tu savais déjà qu'à l'époque, quand tu descends dans la cuisine à côté de ton père, que t'avais peut-être envie de faire ce métier, c'était quelque chose qui te plaisait déjà d'être dans cette chaleur, dans ce tourbillon de ferveur avec les brigadiers, avec les cuisiniers, pardon.
Oui, et dans notre famille, fatalement presque, tout tourne tout le temps autour de la table. Que ce soit évidemment des événements festifs, heureux, des fois un peu moins. Quand tu tombes dedans tout petit, c'est pas inévitable parce que c'est quand même un choix de carrière, un choix de vie qui n'est pas anodin, mais comme le sont finalement tous les métiers. Il faut les faire avec envie, avec passion, chacun ses contraintes. Toi, quand tu vas drouiller davantage qu'actuellement avec ton métier de journaliste, peut-être que ta famille, tu les voyais un peu moins.
Je les voyais beaucoup, beaucoup moins, surtout quand je faisais des grandes missions, quand je partais 3 mois, par exemple, en Australie pour faire les Jeux Olympiques, tout ce genre de choses. C'est vrai qu'il faut aussi que quelqu'un accepte qu'on puisse partir aussi loin, tu vois, quand
voilà,
les enfants
sont... Voilà, c'était...
C'était mon envie d'aller là-bas, quoi. Mon envie de partir et de faire des choses, ouais. Alors, je voulais aussi te parler un peu de ton papa. Je sais qu'à l'époque, j'étais à Paris avec lui, au Drouan, on avait fait reportage avec lui. Et il me racontait la chose suivante. Quand il venait du nord de l'Alsace... Hein,
Wissembourg.
Et il me disait qu'il a travaillé au buffet de la gare à l'époque et il vendait des sandwichs et des virschles. Est-ce qu'il t'a raconté ça
bien
aussi?
Bien sûr, au buffet de la gare à Strasbourg, il a fait son apprentissage.
Son apprentissage, ouais.
Parce que inconnu au bataillon, les portes, il n'a pas eu la chance que moi j'ai eue. Les portes des belles maisons lui restaient fermées.
Elles n'étaient pas encore ouvertes. Mmh. Ouais, parce que toi, tu es tombé dans cette potion, dans cette spirale, dans cette potion magique de la cuisine. Ou dans ce tourbillon, on peut dire comme Obélix ou Astérix, tu es un peu tombé là-dedans et en fait, tu t'es installé à côté de ton père et tu as...
D'abord, je suis allé voir ailleurs.
Oui, t'as fait pas mal de...
D'abord, je suis allé voir ailleurs, ça me paraissait...
T'avais quel âge à ce moment-là? 17, 18 ans? Ou quand tu es parti travailler dans d'autres grandes villes, dans d'autres maisons prestigieuses?
Alors moi, j'ai fait un bac général. Mmh. Parcours que je regrette toujours pas.
Mais en cuisine, non, un bac général.
Un bac général.
Kléber,
ça me permettait Saint-Étienne.
Ah, Saint-Étienne, wow.
Ça me permettait de me garder finalement toutes les portes ouvertes parce que choisir à 14-15 ans de ce qu'on va faire d'une partie de sa vie professionnelle et de sa vie tout court, c'est pas forcément évident. Donc, j'ai fait un bac général, je me suis gardé toutes les portes ouvertes, ensuite un BTS au lycée hôtelier, et c'est là où je suis ensuite parti à droite,
à Biarritz,
à gauche,
je crois, hein.
Biarritz à Paris, un petit bout en Italie,
au Crillon
à Paris, à l'hôtel du Palais à Biarritz, chez Jacques Torel à La Roche-Bernard, 2 étoiles, chez Jacques Lameloise, 3 étoiles à l'époque à Chagny.
Et alors c'est comment là dans le rythme, il faut, tu bosses, tu es dans différents postes, tu apprends un peu tout, à travailler la viande, le poisson, les desserts, enfin.
C'est ce qui est sympa dans notre métier, c'est que tu rentres dans une maison, déjà tu changes de région, donc les habitudes alimentaires ne sont pas forcément les mêmes.
Les mêmes, ouais.
Tu vois un chef qui a sa propre vérité de la cuisine, qui n'est pas forcément celle du voisin. Donc tu apprends, tu prends ce que tu trouves être de mieux pour toi, Et puis tu changes. Tu fais ton petit parcours comme ça pour te construire finalement.
C'est l'école de la vie.
C'est une belle école en tout cas.
C'est une belle école, ouais. Et après, tu es revenu quelques années plus tard. Tu es revenu à la maison, go home. Tu es revenu dans ta maison où tu es venu travailler
en 2001.
À côté de ton papa.
Côté des parents, en 2001. Et on a bossé ensemble pendant 6 années.
Et ta maman était en salle?
Et maman était en salle, dans tout ce qui était aussi administratif, et comme ça jusque tout début 2007.
Et comment c'est dans une grande cuisine? Tu me parlais tout à l'heure qu'il faut être à l'écoute. C'est comment quand tu vis ça avec tes cuisiniers, tes seconds? Comment tu partages le travail? Comment tout est organisé?
Ben, il le faut. Il faut que ce soit organisé. Et, il faut aussi de la connivence entre moi, Fabrice, mon chef. Il est arrivé en 2001.
Fabrice, c'est ton second.
Voilà, il est arrivé en 2001 dans la maison en même temps que moi, quasiment. On n'a souvent pas besoin de se parler pour se comprendre.
Ben, c'est génial.
Ceux qui commencent à avoir un peu de bouteille dans la maison, ça fonctionne aussi comme ça. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a énormément de consignes, énormément d'informations qui circulent en permanence. Et il faut faire le tri, il faut pouvoir être attentif à tout ce qui se fait, tout ce qui se dit. Bien souvent, on n'a pas besoin de goûter une préparation pour se dire il y a peut-être un truc qui déconne là, parce que tous les sens sont mis à contribution. Le simple fait de voir une poêle qui fumerait un peu trop à 4-5 mètres au bout du piano.
Tu le sens et tu le vois.
Ou alors des fois, ça crépite bizarrement. Une odeur fatalement.
Ah ouais.
Donc, c'est ça qui est sympa. Ça qui est sympa, c'est qu'on est en veille permanente et dans l'échange avec toute l'équipe. Quoi.
Et alors, un beau jour, Antoine, ton papa, est parti au Drouan, je crois, hein, et à la place Gaillon, dans cette célèbre institution, le temple de la littérature. Il est allé là-bas quelques années. Donc, il a quitté l'Alsace pour aller travailler à Paris.
Oh, il a quitté l'Alsace, Drouan, je crois que c'était 2005, de tête.
Ah.
Donc, il a mené de front Bureuil et Drouan. Et puis ensuite, c'est vrai que quand les parents ont souhaité prendre du champ par rapport à ce Bureuil, moi, cette maison, franchement, m'intéressait énormément.
Bah, j'imagine.
Ouais. Il n'y avait rien d'acquis. Hein, et il y a toujours rien d'acquis. Et
ton papa, il t'a laissé les étoiles, les trois étoiles ou,
Ça, c'est un vieux débat. En fin 2006, quand décision avait été prise avec les parents que eux allaient se retirer, que moi j'allais pouvoir racheter l'entreprise, on est allé voir le guide Michelin. On leur a dit les parents partent à la retraite, je reprends. Voici l'offre que je veux proposer demain à mes clients, qui n'est plus l'offre 3 étoiles de 2006. Vous avez l'info, mettez peut-être le Bureuil entre parenthèses pour un an, laissez-moi bosser, faites votre boulot de guide et puis advienne que pourra. Et de ce Bureuil mis entre parenthèses, finalement, ils ont enlevé toutes les étoiles, ce qui a été une vraie, réelle chance.
C'était une chance de les perdre.
Déjà parce que tous tes confrères journalistes en ont parlé.
Mais je m'en souviens, ouais, donc t'as une belle pub, quoi.
Les clients, se disaient, tiens, on va aller voir. Beaucoup qui n'osaient plus forcément venir dans un 3 étoiles, parce que tu sais comment sont, en plus, les Alsaciens, ça s'est pas fait pour moi, c'est trop...
C'est trop cher,
c'est trop cher, c'est tout ce qu'on veut. Ils ont osé revenir.
Ouais, parce que, ouais.
Et ils sont toujours aujourd'hui mes clients.
Et ils ont découvert, en fait, ce que tu savais faire. Et tu as gardé les plats de ton papa. Tu as gardé certaines choses, les choses que les gens aiment dans ton...
Il me fallait... Moi, j'ai de toute façon jamais eu envie de casser quoi que ce soit. Et il y a des plats qui étaient pour moi... marqueur de cette maison et de la cuisine de papa, que sont les cuisses de grenouille avec les Schneiderspätzle dont tu as parlé tout à l'heure, la poulette cuite en bake-off, alors que ce soit en été avec du romarin, du citron confit, des artichauts, tomates, ou alors en hiver,
en automne, oui,
c'était l'été dont je t'ai parlé là, et en hiver donc poireaux, pommes de terre, oignons, truffes.
Ce que j'ai fait un jour à ton papa, j'ai envoyé, comme on était au Drouan, faire un reportage avec lui. Donc, on parlait bien sûr de ce plat mythique avec les cuisses de grenouille. Et un jour, quand j'étais chez toi, je l'ai photographié quand je le mangeais et je l'ai envoyé. Il m'a demandé, André, mais où t'as vu ça? J'ai dit, mais j'étais en Chine, ils t'ont copié. Donc, il m'a dit, t'es toujours un loustique, André. Mais écoute, on va écouter une petite musiquette qui va te plaire, tu vois. Quelqu'un qui chante « Je suis un homme heureux », tu vas voir.
Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Ils ont, quand ils s'en viennent, le même regard d'un seul désir pour deux. Ce sont des gens heureux. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Quand ils ont leurs problèmes, bah y'a rien à dire, y'a rien à faire pour eux. Ce sont des gens qui s'aiment. Et moi je te connais à peine, mais ce serait une veine qu'on s'en aille un peu comme eux. On pourrait se faire sans que ça gêne de la place pour deux. Mais si ça ne vaut pas la peine que j'y revienne, il faut me le dire au fond des yeux.
Belle poésie, hein. William Scheller, il a fait de belles chansons, ce monsieur. Ah, j'aime beaucoup, ouais. Alors, en fait, je voulais te proposer, est-ce que toi, tu es tous les jours un homme heureux? Est-ce que tu vas vers le bonheur tous les jours, d'être heureux dans ton travail, dans ta vie? Est-ce que, comment tu fais avec toutes les heures que tu as dans ta cuisine?
Je pense à un vieux copain qui me disait « mieux, ce serait indécent ». mais ce n'est pas totalement vrai, parce que ce serait se mentir. Il y a des jours où on n'a pas envie,
des jours
où ça coince, mais il y a quand même quasi tout le temps où c'est vraiment génial, parce qu'entouré d'une belle équipe comme j'ai la chance de l'être, on est plus de 30 au Bure Isel, d'avoir des clients qui
fidèles.
Sont fidèles, locaux, pour...
C'est une partie de ta clientèle, les locaux, les Strasbourgeois?
C'est pas une partie, c'est 80%.
Ah, 80%, ouais.
Ah ouais, c'est génial. Encore plus dans les périodes qu'on a traversées, où fatalement, les étrangers, les Parisiens, j'ai pas dit que les Parisiens étaient étrangers.
Hein. Non.
Non, mais quand on va chercher une clientèle japonaise ou américaine, pendant le Covid, après le Covid... Ben, Tintin, ils n'étaient pas là.
Ouais,
par contre, mes
là.
Clients habitués locaux
sont revenus.
Eh ben, et ils m'ont bien rendu leur fidélité.
Eh ouais, c'est bien. Alors, on parle de ton équipe. Alors, parle-moi de ton équipe. Un cuisinier, tu as aussi c'est ton second, hein, tu me disais.
Fabrice, c'est mon chef. C'est mon chef. On bosse ensemble depuis 2001. On a bossé avec.
Tu peux
avec
lui laisser papa. Les clés de la cuisine sans problème.
Bah, ça fait longtemps qu'il les a.
Et alors, tu as aussi Clément, c'est ton sommelier, Clément?
Ah, Clément Ditlot, qui est maître d'hôtel au Bure Isel depuis des années, qui commence à songer un petit peu à la retraite. Je crois que c'est fin d'année prochaine, mais on va voir ça. Il faut qu'on cause.
Faut pas le laisser partir. Tu lui parles, quand je le vois, je le croise toujours. J'ai dit, écoute, tu as une très belle Volvo devant la porte. Là, il adore les belles voitures aussi. Et après, tu as MacGyver aussi dans ta salle, je crois.
D'accord, tu me parles de Camille. Hein.
De Camille,
c'est MacGyver avec des cheveux longs. Alors, oui, on l'a surnommé un peu le couteau suisse, Camille, et ça lui colle parfaitement.
Parce que
Camille, elle a démarré au Bure Isel il y a bien des années comme apprentie en cuisine. Elle a un CAP de cuisine.
Elle était au bas de l'échelle.
CAP de cuisine. Ensuite, elle a continué en salle pour une année. Elle est partie avec papa faire l'ouverture du Sofitel Vienne en Autriche pendant quelques années.
Wow.
Elle est revenue une mention complémentaire sommellerie avec Serge Dups à l'Auberge de Lille. Et puis là, depuis combien de temps d'ailleurs? Depuis une grosse année, au Bure Isel, elle est à la fois sommelière, elle est à la fois maître d'hôtel. C'est pour ça que ce titre de couteau suisse m'a... Voilà, c'est l'image qui m'a... qui m'est tout de suite venue en parlant d'elle. Ouais.
C'est bien de partager avec son personnel, d'être toujours à l'écoute, de les apprécier et de se dire... C'est aussi un signe de réussite dans un restaurant comme le tien, parce que tu as beaucoup de fidélité, les gens te sont fidèles, ton personnel.
Ben, comme dans toute relation, ça marche quand ça va dans les deux sens.
Ouais, absolument.
Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une équipe qui m'entoure, qui est fidèle, qui est là, qui est présente. J'ai pas d'absentéisme.
Génial.
C'est hyper gratifiant.
C'est très intéressant ça. Et ce que je voulais te demander aussi, par rapport à tes étoiles, est-ce que tu cours après les étoiles? Est-ce que tu as une étoile pour l'instant? Est-ce que tu as envie d'en avoir d'autres? Est-ce que c'est un peu ton objectif?
Écoute, en ce moment, j'aimerais plutôt des nuages, parce que si on veut que les champignons poussent, il nous faut de la pluie. Donc les étoiles,
on
peut les cacher un petit peu.
La galaxie est étoilée, peu de temps en temps. On est chef, on a peut-être envie d'avoir cette consécration.
Moi, la quête, c'est que le client quitte la maison avec la banane. et qu'il a envie de revenir. S'il peut en parler autour de lui, c'est encore mieux. Ça, c'est la quête d'un aubergiste que je suis.
Le bouche à l'oreille, tu veux dire, c'est ça qui est important, c'est la plus belle des...
C'est d'abord la satisfaction du client qui vient manger chez moi. On a eu la semaine dernière, on l'a repéré, hein, un guide qui est venu casser la croûte. Mais il n'était pas plus important que les 48 autres clients qui étaient à côté de lui, bien au contraire. Parce que ce sont mes clients qui font que aujourd'hui les 34, 5, 6 salariés du Burezel ont leur boulot au quotidien et en vivent.
Tu penses aussi à eux, quoi.
Totalement.
Absolument, ouais. Alors je trouve quand même l'Alsace, notre gastronomie alsacienne, mériterait plus d'étoiles. Je trouve que les restaurants qu'on a en Alsace, on a plus de 3 étoiles. C'est quand même dommage, je trouve. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Je ne maîtrise rien.
Oui, je sais bien. Mais je me posais la question, pourquoi maintenant on n'a plus de restaurant 3 étoiles? Pourtant, il y a de si belles tables entre du nord au sud de l'Alsace. Et c'est vrai que Marc les a perdues. Et je pense qu'il est toujours un peu peiné par rapport à tout ça, non?
Oui, mais j'ai eu la chance d'aller dîner à l'auberge il y a de ça une quinzaine de jours pour les 18 ans de ma fille.
Ouais.
Et je peux t'assurer qu'on a passé un moment magique.
Ah, j'imagine, ouais, mais Marc, il a le cœur sur la main, quoi.
Donc, oui, il y a ces étoiles qui faisaient la pluie et le beau temps quelques années.
De nombreuses années, ouais.
Parce que le moyen de s'informer sur, sur un restaurant dans une région, c'était le guide.
Ouais, c'est vrai.
Aujourd'hui... Ouais. Il y a des tas d'autres moyens, mais surtout, et tu l'as dit tout à l'heure, pour moi, je crois que ça a toujours été le cas d'ailleurs, le nerf de la guerre, c'est le client local, le bouche à oreille.
Ouais, c'est vrai. Je voulais juste te raconter une petite anecdote par rapport à l'auberge de Lille. J'avais fait un reportage avec toute la famille, et la maman de Marc, un jour, je faisais son petit portrait, et la maman de Marc récupérait le pain des tables. On lui mettait macéré comme ça dans du lait. Et à 16h, elle partait avec une petite charrette et elle faisait piou, 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 piou.
Ouais.
Elle ramenait
Madame
donc,
Marie.
Elle allait donc donner du pain aux oiseaux, aux cigognes. Et je lui pose la question suivante. Madame Méberlin, est-ce qu'on est fier de ce que vous avez réalisé? Elle dit non, André, on n'est pas fier. On est juste reconnaissant que les gens viennent nous voir. Mais vous vous rendez compte ce qu'elle dit?
Tellement vrai.
C'est énorme ce qu'elle a dit. Mmh. Et je crois que Marc ne l'a jamais oublié, ni sa sœur. C'est quelque chose d'extraordinaire ce qu'a dit sa maman. Et c'est ce qui a fait la réputation de cette grande maison. Tu en parlais tout à l'heure. C'est juste très, très sympa. Mais écoute, en tout cas, je te souhaite beaucoup de chance avec le Burezel, que ça continue encore et encore et encore et toujours. Et je sais que vous êtes des esthètes là-bas, vous êtes des gens précieux. Quand je viens de temps en temps vous regarder, passe me balader, je vois cette belle maison. Et voilà, je voulais aussi te remercier d'être venu à nos micros de France 3. Pardon, de Radio Judaïca. Ça, c'est des vieux réflexes.
Eh oui.
J'étais un ancien de France 3. Mais là, on est à Radio Judaïca. Merci beaucoup, Eric, d'être
Merci
venu.
Merci de ton invitation.
Merci beaucoup et bonne continuation. À bientôt.
À toi
Merci.
Aussi.
Voilà, c'est fini. On a tant ressassé les mêmes théories. On a tellement tiré chacun de notre côté. Que voilà.